Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé.
Le premier ministre français Gabriel Attal est de passage au Québec. Il a livré d'ailleurs un discours devant l'Assemblée nationale et la pièce centrale, là où il a été, je dirais, le plus applaudi, c'est lorsqu'il a parlé de la laïcité et de la position similaire du Québec, de la France. Mais qu'en est-il concrètement sur le terrain en France? On en parle avec Stéphane Bureau. Salut Stéphane.
Salut Alexandre. En fait, un élément d'un menu riche parce que nous vivons vraiment une époque formidable et l'actualité nous en donne pour notre argent. Peut-être aussi des fois pour nos cauchemars. Je ne sais pas si t'arrives de te coucher en réfléchissant ou en rêvant à ce que tu as parcouru dans la journée d'information. Je ne dirais pas que c'est des cauchemars, mais c'est certainement en tout cas une époque pour plusieurs anxiogènes. J'en fais pas partie. Moi, j'aime bien l'idée qu'on puisse faire du surf, même sur des mauvaises nouvelles, parce que c'est stimulant, mais en même temps, c'est aussi le chaos généralisé. Excuse-moi cette petite forme d'aparté avant qu'on parle de notre plat principal ou qu'on se mette à table pour consommer notre plat principal, le premier ministre français, Gabriel Attal, bon élève, premier de classe qui s'est présenté. Ceci étant dit, avec quoi? Une heure et demie de retard à l'Assemblée nationale. Je sais pas si tous les députés étaient au garde-à-vous à l'attendre. Mais je ne sais pas si c'est la tempête de neige ou autre chose qui l'a retenu.
Je sais pas, mais...
pour ceux qui ne nous voient pas, il y avait des guillemets à la tempête de neige parce que j'en ai pas entreaperçu. Moi, je regardais ça de Paris. Je trouvais le ciel gris et triste à Québec, mais néanmoins, je n'ai pas compris comment on pouvait faire attendre autant. Il doit avoir de bonnes raisons. Il a parlé de laïcité, M. Attal, probablement d'abord parce qu'il savait que ça résonnerait au Québec, aussi parce que si tenté que son voyage est suivi en France, je dis bien si tenté parce que ça n'a pas un énorme impact en France, cette visite, il y avait une ambition de faire en sorte que son discours puisse avoir aussi un impact, une consommation européenne, française. Parce que la question de la laïcité, elle est malmenée. La laïcité, c'est au cœur des valeurs de la Ve République, mais c'est loin d'être gagné d'avance. Et j'aurai quelques exemples à te donner. Dans un contexte où, hier, parce qu'on a parlé cette semaine des gouvernements des juges ou du concept du gouvernement des juges, c'est-à-dire ces magistrats qui, partout en Occident, c'est vrai aux États-Unis, des fois au Québec, en France, se substituent apparemment aux politiques. L'exemple que je donnais cette semaine, en fait, il y en avait deux révélateurs. C'était la Cour européenne des droits de l'homme qui a condamné la Suisse parce qu'elle n'en faisait pas assez pour parer au changement climatique. C'était une plainte qui avait été déposée par une association de femmes aînées, 2400 femmes, qui disait notre qualité de vie, et particulièrement à nous parce qu'on est plus âgés, menacée par les changements climatiques, et la Suisse n'en fait pas assez. Alors, on court-circuite le législateur, puisqu'apparemment, il n'en a pas fait assez, puis la justice dit, retournez faire vos devoirs, puis revenez, s'il vous plaît, avec des solutions rapidement. Arizona, Cour suprême, c'était en Cour... en Cour suprême, quatre juges sur deux qui disent, on va retourner à une loi qui date de 1864 et qui, à toutes fins utiles, interdit l'avortement. Même les républicains sont grimpés au rideau. Hier, c'est les sages en France du Conseil constitutionnel, on les appelle ainsi, il n'y a pas d'ironie, 9 juges, qui ont décidé qu'un référendum d'initiative populaire sur la question de l'immigration, et il y a un lien avec la question de la laïcité, je t'assure, qu'un référendum d'initiative populaire était impossible et était rejeté. C'est une idée qu'avaient présentée des députés de la droite chez les républicains pour des raisons techniques, je rentrerai pas dans les détails, mais fondamentalement, ce qu'on dit, même si une majorité de Français s'est avérée, majorité veut un référendum, quitte à ce qu'il faille éventuellement amender la Constitution, parce que c'est sur la foi de ce que la question posée était inconstitutionnelle qu'on a refusé l'idée de ce référendum. Une majorité de Français disent publiquement dans les sondages, il y a quelque chose qui fonctionne pas avec nos politiques d'immigration et si nous ne sommes pas capables de trouver des solutions, vous allez nous entendre en demander. Or, ça n'arrivera pas, il y aura pas de référendum d'initiative populaire parce que 9 juges en ont décidé autrement au Conseil constitutionnel. Le référendum, la souveraineté populaire, ça devrait être le cœur de ce qu'est la démocratie, des électeurs qui disent on veut se faire entendre, puis là il y a un enjeu. Je reviens à la question de la laïcité puisque Gabriel Attal hier soir disait la laïcité, c'est la liberté. Ben, c'est de moins en moins vrai que cette laïcité est la colonne vertébrale de la 5e République de la France. Elle est battue en brèche un peu partout. J'ai retenu quelques exemples parce que si on parlait pas beaucoup de Gabriel Attal au Québec ou au Canada hier en France, c'est parce que la veille, un jeune Afghan, 25 ans, demandeur de statut de réfugié, avait attaqué au couteau deux musulmans qui buvaient du rosé au soir de l'Aïd, fin du Ramadan. Donc, c'était comme des mécréants et il s'en est pris à eux. Il en a tué un coup de couteau. Il y a quelqu'un dont les signes vitaux sont encore menacés, qui a été blessé. Quelques jours avant, c'était une jeune fille agressée parce qu'elle refusait à son école de porter le voile. Ça se passait à Montpellier. Elle vient d'un quartier qui est à Montpellier, bien entendu, en France, mais où on peut poser la question de ce qu'on est encore dans la République, parce que le contrôle, l'autorité n'est plus celle des autorités politiques. C'est presque l'application, je fais les choses évidemment très grossièrement, mais c'est presque l'application des lois coraniques. On est dans un univers parallèle. Alors cette jeune fille, parce qu'elle refusait de porter le voile, a été agressée par des camarades qui, elle, jugeaient que c'était un comportement de mécréant, agressée très sévèrement. Sa mère a défendu sa fille jusqu'à ce qu'elle se rende compte que, justement, dans son quartier à Payade, elle serait mise en danger pour ce discours, pour avoir défendu sa fille qui refusait de porter le voile. Elle s'est retrouvée à la télévision sur une des émissions les plus populaires, « Touche pas à mon poste », et soudainement, elle sort son téléphone puis elle se met à lire l'équivalent d'un communiqué de presse qui lui a été dicté. Il est odieux que les dérives de l'extrême droite me forcent aujourd'hui à, que ça n'avait aucun sens. Ah, oui. Son discours avait changé. Et on peut le comprendre parce que là où elle vit, là où vit sa fille, elles sont en danger pour avoir une parole dissidente et des comportements dissidents. Avant-hier, dans le nord de la France, une jeune fille, 13 ans, prise en flagrant délit, musulmane, de manger le jour alors que c'est le Ramadan, a été attaquée aussi. Alors tu me diras, tous les faits divers ne sont pas nécessairement révélateurs, mais la somme de ceux-ci finissent par faire des faits de société. Et une des histoires qui a probablement le plus bouleversé, très certainement à droite, parce que c'est surtout là qu'on s'en indigne. C'est un proviseur dans un lycée, pas très loin de là où je suis à Paris, le lycée Maurice Ravel, qui a eu l'idée saugrenue de demander à une jeune fille de retirer son voile dans la cour d'école parce qu'elle portait le voile et que les règles sont très, très claires. On n'est pas voilé à l'école. Ça fait longtemps que ces règles sont claires. Alors, elle a protesté. Elle va affirmer que le proviseur l'a giflé. Or, aujourd'hui, il y a des démarches qui ont été entreprises contre elle pour mensonge. Le proviseur, aujourd'hui, n'est plus à l'école. Il a pris ce qui ressemble à une retraite anticipée, mais bon, il a un peu tordu le bras. Personne n'est venu à sa défense. Il y a eu des menaces de mort, mais une déferlante de menaces de mort, parce qu'évidemment, il aurait agressé cette jeune fille pour lui avoir demandé simplement de respecter ce qu'est la loi. C'est pas lui qui l'a fait, ce sont les lois de la République. Alors, ça nous amène à cette déclaration. La laïcité, c'est la liberté. On veut le croire, mais c'est pas encore tout à fait vrai, ou c'est de moins en moins vrai, devrais-je plutôt dire, en France. Et c'est pour ça, peut-être, que M. Attal, hier, était intéressé à nous montrer ce qu'étaient les risques, et peut-être aussi avait l'intention de parler à ses commettants en France, en rappelant tous qu'il était vigilant sur ce qui se passait là-bas. C'est vrai que comme ministre de l'Éducation, il n'a pas, pardonne l'expression, niaisé avec la POC. Une des premières décisions importantes qu'il a prises en septembre dernier, ça faisait quelques semaines qu'il était nommé, c'était l'interdiction des abayas, c'est ce vêtement traditionnel, et qui était une espèce de prolongement, je dirais, pour la République, de l'interdiction du voile. Lui avait décidé qu'il ne tergiverserait pas. Aujourd'hui, malgré tout ça, en France, la question de la laïcité est battue en brèche. Il y a des quartiers où elle ne se pose même pas cette question. Et c'est probablement aussi lié à une immigration non contrôlée. C'est une conclusion, évidemment, que plusieurs pourront contester, mais c'est ce que une majorité de Français aujourd'hui semble dire et revendiquer. Alors, on dira que c'est en raison des discours populistes de politicailleurs, véreux, qui manipulent les opinions publiques, mais c'est certainement ressenti. C'est senti à la hauteur des quartiers, des communautés, où il y a cette impression, justement, que les règles de la République ne sont pas tout à fait appliquées. Alors, qu'est-ce que ça fait pour nous, Québécois? Ben, c'est peut-être une mise en garde. La France est un peu un cas unique en Europe. Il y a des exemples semblables en Scandinavie et ailleurs. La France a un réel problème qui lui est particulier, mais c'est plus que le canari dans la mine aujourd'hui. Je dirais que c'est la grosse chouette. Et il y a là des leçons, en tout cas, à retenir ou à intégrer. Quand tu perds le contrôle de ton immigration, et c'est ce qui est arrivé un peu en France, il peut y avoir aussi, sur les institutions, sur la manière du vivre ensemble, des dommages collatéraux substantiels.
Dis-moi, Stéphane, pour plusieurs, certains le découvrent, Gabriel Attal, lors de sa visite au Québec, le voient comme un jeune premier de classe, quelqu'un qui s'exprime bien. Comment il est perçu en France?
Ben un peu comme ça. C'est clair que c'est une fusée, que son destin politique depuis qu'il a été élu député, c'était en 2017, tout jeune, nommé premier ministre à 34 ans. C'est le plus jeune de l'histoire de la République. Il soulignait hier que la dernière fois qu'un premier ministre français s'était adressé à l'Assemblée nationale, c'était le plus jeune, à ce moment-là, premier ministre de l'histoire, Laurent Fabius. Alors, il a battu le record. Il est évidemment aussi là parce qu'il y a un autre jeune premier qui lui fait de l'ombre et qui fait de l'ombre au parti de Monsieur Macron, du président, c'est Jordan Bardella, qui incarne la droite dite extrême en France, qui est le dauphin de Marine Le Pen, Rassemblement national. C'est quelqu'un, si on avait à prendre le pouls, qui est apprécié pour sa maestra et son talent politique, mais dont pour l'essentiel, je dirais, c'est la parole performative, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui dit beaucoup de choses. Évidemment, c'est un peu le lot des politiques, mais pour lequel on attend toujours des résultats concrets. Est-ce que de dire « je vais m'en occuper, je vais m'en charger », d'être capable de « je vous ai compris, je vous ai entendu », est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est suffisant? J'en sais rien. Mais en même temps, il faut être clément, il est premier ministre depuis le 9 janvier dernier. Donc, très difficile de dire on va faire un bilan si rapidement, mais c'est un des reproches qui lui sont souvent faits, c'est-à-dire de se fier à ce talent et à cette capacité de convaincre sans pour autant livrer la marchandise.
Les risques de réplique iranienne contre Israël donnent des frissons actuellement aux Américains.
Oui, on peut le comprendre parce que les Iraniens, depuis le 1er avril, disent qu'ils vont répliquer légitimement. Est-ce qu'on peut dire des choses comme ça? J'en sais rien. Mais ils ont été attaqués, leur territoire souverain, c'est-à-dire la section consulaire de leur ambassade à Damas a été attaquée. Des généraux iraniens ont été tués, opération qui a été vraisemblablement menée par les Israéliens. Donc, est-ce que c'est illégitime d'annoncer une réplique? Je laisserai à d'autres le soin de décider, mais je présume que si on avait fait le coup aux Israéliens ou aux Américains, on saurait qu'ils seraient en train de préparer la réplique. Alors, ça fait une dizaine de jours qu'on attend. Les Américains sont convaincus qu'il y aura quelque chose et que ça pourrait être massif. Le général responsable des forces armées au Proche-Orient, forces armées américaines, est en Israël aujourd'hui pour essayer de planifier ce que sera la réaction à la réaction. Mais on est un peu dans le monde à l'envers, si tu me pardonnes, parce que les Israéliens disent « attention, faut faire gaffe, si vous nous attaquez, on saura vous répondre ». Et le mot d'ordre, c'est « ceux qui nous font mal, on leur fera encore plus mal ». Or, dans ce cas-ci, la provocation première, c'est quand même celle des Israéliens qui ont choisi d'attaquer l'ambassade iranienne à Damas. Qu'on aime ou non les Israéliens ou les Iraniens, c'est assez simple de voir ce qui s'est passé. Est-ce que, je répète ma question, les Israéliens, les Américains, les Canadiens, même avec nos slingshots, si on était attaqué, si on avait notre section consulaire dans une ambassade à l'étranger qui était attaquée et on savait par qui, est-ce qu'on resterait les bras croisés? Est-ce que les Iraniens, compte tenu du rôle qu'ils jouent dans la région, peuvent, sans endommager leur réputation, dire, ben, c'est correct, vous pouvez faire ce que vous voulez, nous, on riposte pas. Alors, les Américains sont très préoccupés au point d'avoir dit aux Chinois, s'il vous plaît, faites pression sur les Iraniens. Il se trouve que les Chinois ont de l'ascendant. C'est eux qui ont fait l'impossible. Ils ont réconcilié les Saoudiens et les Iraniens, qui sont des ennemis irréductibles. Ce qui a pas eu l'air de plaire, évidemment, aux Américains, parce que traditionnellement, les Américains aiment être les intermédiaires, ceux qui décident de qui va parler à qui, historiquement très liés aux Saoudiens. Et là, soudainement, les Saoudiens qui prennent leur distance, normalisent leurs relations avec l'Iran. Tout ça sous la houlette de la Chine qui emmène large. Alors, ils ont appelé Pékin en disant, écoutez les gars, ça serait le fun que vous fassiez quelque chose pour contrôler l'Iran, parce qu'on pourrait perdre le contrôle de la situation facilement. À ce jour, les Iraniens ont toujours été assez calibrés dans leurs réponses. C'est pas des têtes brûlées. Est-ce que les circonstances sont différentes et ils pourraient choisir de leur territoire d'organiser la réplique, ce qui symboliquement annonce une escalade? Ou vont-ils, comme toujours, confier à leurs proxys, que ce soit les Houthis, le Hezbollah, ben le Hamas, je sais pas ce qu'il peut faire parce que pour l'instant, il est plutôt sur la défensive, mais ce qu'ils vont demander donc à leurs alliés, à ceux qu'ils arment, entraînent et organisent, de riposter à l'attaque israélienne. Le Hezbollah, ça serait pas nécessairement surprenant, ils sont super organisés, c'est des dizaines de milliers de soldats à la frontière d'Israël au sud du Liban. Encore une fois, tu me diras, est-ce que ça a de l'impact dans nos vies? Oui, parce que la déstabilisation de la région peut générer un conflit élargi.
Ah, c'est clair.
Puis parce que à court terme, le prix du pétrole qu'on paye à la pompe est à la hausse parce que le baril de pétrole est dopé en ce moment par ces tensions géopolitiques. Essayons d'imaginer que dans le détroit d'Ormuz, les Iraniens ou leurs alliés réussissent à couler un ou deux pétroliers, bloquent, c'est super étroit, bloquent donc le détroit d'Ormuz et l'exportation des millions de barils de pétrole qui passent par là, ça aurait un impact inflationniste terrible sur le cours du pétrole. Et le cours du pétrole a un impact sur l'ensemble de nos vies et de l'inflation dans l'ensemble de nos pays. Hier, aux États-Unis, tu l'as peut-être remarqué, inflation à 3,5%, c'est une très mauvaise nouvelle pour le président Biden qui comptait sur des baisses de taux d'intérêt avant les élections. Alors, publiquement, il dit qu'il ne se mêle pas des affaires de la Fed, mais il a quand même rappelé que, selon lui, ça devrait baisser avant les élections. Je parle des taux d'intérêt, mais les taux d'intérêt baisseront pas, ou ne devraient normalement pas baisser si la Fed n'est pas inféodée au pouvoir politique, ne devrait pas baisser s'il y a encore des risques d'inflation. Et le discours officiel, comme la Banque du Canada d'ailleurs, qui dit...
C'est resté à 5% ici aussi, là.
On garde ça à 5%. Puis on pourrait se dire au Canada, au Québec... Les nouvelles sont bonnes. L'inflation en février est à 2,8. Ça commence à se rapprocher de la fourchette désirée par la Banque du Canada. La vérité, c'est que si on se met à baisser de notre côté les taux d'intérêt, on va tuer le dollar canadien qui est déjà extraordinairement fragile. Alors, il y a des exportateurs qui pourront dire « Alléluia, c'est cool, ça va rendre nos produits plus compétitifs ». On est un des pays occidentaux du G7, certainement, les moins compétitifs, dont l'économie est la moins compétitive. Une des clés, c'est des équipements, c'est des achats d'équipements qu'on fait à l'étranger avec des dollars canadiens. Fait que si les machines qu'on achète aux Allemands pour être plus compétitifs, si les logiciels qu'on achète aux Américains pour être plus compétitifs nous coûtent plus cher parce que notre dollar est plus faible, on les achète pas et on devient de moins en moins compétitif et on s'appauvrit. Tu me diras, c'est de la macroéconomie un peu compliquée. Résultat net des courses, c'est qu'on va être beaucoup moins riche que nous le sommes aujourd'hui, et peut-être le sommes-nous d'ailleurs beaucoup moins qu'on l'imagine, parce que moi j'ai l'impression, quand je vous écoute souvent avant de prendre l'antenne, parler des promesses budgétaires de Monsieur Trudeau, on est en train de se pelleter par en avant des problèmes archi-sérieux. Aux États-Unis en ce moment, c'est pas différent, hein? À tous les 100 jours, donc 3 mois et quelques poussières, oui. À tous les 100 jours, on ajoute 1 000 milliards de dollars à la dette. 1 000 milliards de dollars à la dette. Alors, on dira, pour une économie comme celle des États-Unis, c'est jouable. Encore une fois, il y a toutes sortes de formules magiques en proportion du PIB, de ci, de ça. c'est juste pas tenable. Et quand tes taux d'intérêt sont élevés puis que t'as pas les moyens de les baisser parce qu'il y a de l'inflation, ben ces coûts augmentent parce que c'est le coût collectif, le coût cumulatif, pardon, de ta dette qui est directement affecté par les taux d'intérêt. À 0, 1 ou 2 % ça allait pas pire. À 5 % 5 % et demi.
Tenable.
Et puis, c'est pitoyable. Et on se dira, ben écoute, éventuellement, les banques centrales pourront faire quelque chose. Vérité, c'est que les banques centrales, ils ont un rôle directif. Le jour où le marché obligataire veut plus te prêter d'argent parce que on se dit c'est pas sérieux, c'est pas la banque centrale qui décide, c'est ceux qui achètent tes obligations, les obligations du Canada ou des États-Unis, puis qui vont dire, écoute, sais-tu, vous me les offrez à 4 % ou à 5 % j'en veux pas, il y a trop de risques. Ça va être 6, ça va être 7, ça va être 8. Alors, est-ce que c'est demain matin? Ça fait 30 ans que la dette publique, j'en parle, et qu'on se dit, hey, c'est épouvantable. À quelques occasions, on a fait le ménage. M. Chrétien, avec Paul Martin, l'ont fait. Stephen Harper le fait un peu. Puis on n'est pas les pires pour le Canada au sein du G7. Mais ça va très, très vite. Quand on pogne un serpent dans ce jeu de parchésie, on peut se retrouver à case départ très, très vite. Et en ce moment, donc, je pense qu'il y a de l'inflation, plus qu'on l'imagine, et qui va durer peut-être plus longtemps qu'on le pense.
Et on va voir l'ampleur de la grosseur du serpent canadien aussi lors du budget le 16 avril prochain. Merci Stéphane.
Ben, je souhaite à tous ceux qui nous écoutent, et je te souhaite un très bon week-end.
Souhait partagé,
22 degrés à Paris.
Oh mon chanceux.
22 degrés à Paris.
C'est de la pluie ici. On échange-tu?
Ben, je pense que je vais aller sur une terrasse prendre un petit verre de rosé en espérant que personne m'attaque parce que je suis un mécréant.
Bon, fais ça à notre santé, Stéphane. Prends-en donc deux. Tiens.
Ciao.
Salut.